compte tenu du paysage juridique du programme du PPAC, notamment vis-à-vis de la disparition de la personnalité morale et du prêt sans intérêt, comment des produits nécessitant pour leur production un haut niveau capitalistique peuvent-ils continuer à être produits ? Exemple, produits ménagers, loisirs, culturels, mobilité individuelle, etc.
Mais si on veut faire hors service public, comment on fait ? Donc ça, c'est déjà mieux posé comme question.
C'est que le programme, c'est un programme, toujours pareil, la confusion entre le législatif et l'exécutif. Le programme, c'est un programme législatif qui énonce des règles abstraites. Il ne rentre pas dans les, ce qu'on appelle les commandements opérationnels, c'est-à-dire les décisions de l'exécutif. Alors, pour ce qui concerne le service public marchand, qu'est-ce qu'il dit ? Le programme, qu'est-ce qu'il dit au niveau de la Constitution ? Il dit que les activités à forte empreinte écologique relèveront du secteur public marchand. Bon, donc, voilà. Alors, après, il n'en dit pas plus. C'est-à-dire que, très certainement, il va falloir que le gouvernement dise « Ah ben, la pétrochimie, oui, il n'y a pas de problème, hein, c'est forte empreinte écologique, donc c'est service public marchand. » Voilà. Bon. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il faut préciser. Ensuite, tout ce qui ne sera pas couvert par le secteur public marchand. Tout ce qui ne sera pas couvert par le service public marchand, ça veut dire tout ce qui ne sera pas décidé par le gouvernement comme étant pris en charge par le secteur public marchand, parce que le gouvernement, il aura bien lu la Constitution. S'il n'a pas bien lu la Constitution, bah, il y a les agora qui lui disent « Attendez, hey, tu ne sais pas lire la Constitution, il y a écrit ça. » Bon, donc déjà, il y a l'intervention démocratique là-dessus. Alors, ce consensus démocratique étant supposé avoir été réalisé, c'est-à-dire que le gouvernement aura bien compris la Constitution et il aura bien mis ce que le peuple veut qu'il mette dans le secteur public marchand, eh bien, tout le reste qui ne sera pas couvert par le secteur public marchand, il sera couvert par le privé. Et il sera couvert par le privé dans le cadre des règles qui sont édictées par la Constitution. Alors là, tu dis, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on veut monter une usine et qu'on n'a pas d'argent ? Ben, si tu veux monter une usine et que tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas monter une usine. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on fera pour lever des sous ? Ben, on ne peut pas lever des sous. Alors, on aura une prime au démarrage qui sera versée à tout entrepreneur qui voudra entreprendre quelque chose qui sera versé par l'État. On aura la banque d'échange qui fera des avances en argent virtuel. Voilà. Et puis, on aura le troisième niveau de financement qui est la monnaie libre. Voilà, monnaie libre, le bitcoin, le machin, tout ce que tu veux, la CIA, comment ça, ils appellent ça à Toulouse, bon, j'ai oublié, la juge, enfin bref. Et puis voilà. Hein, bon. Alors, quand tu vous parlais de capitalistique, moi je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est sorti du vocabulaire là, capitalistique. Ça n'existe pas le capitalistique. Donc il faut plutôt dire comment est-ce qu'on montera une entreprise qui nécessite une mise de fonds au départ ? Bah, on la montera comme on la montait avant la croissance, c'est-à-dire avant il y a 170 ans, bah, avec les excédents de gestion des années précédentes. Lorsque tu as des excédents de gestion qui te permettent de te développer, tu te développes. Si tu n'as pas d'excédents de gestion, tu ne te développes pas. L'apport du capitalisme, c'est qu'on peut se développer sans avoir de fonds, en créant des fonds virtuels. Bon, voilà. Et à partir du moment où on annule ça, bah, évidemment, on ne peut se développer que si on a les moyens de le faire. On ne peut pas inventer
là, c'est la poule, c'est le raisonnement de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que si on veut créer une activité, donc là, il n'y a pas d'excédent de gestion, puisque l'activité n'existe pas, elle est à créer. Il faut juste trouver le concours de suffisamment de personnes pour constituer la mise pour, je ne sais pas, ne serait-ce que construire des murs, trouver des machines, trouver des gens, payer des gens, etc. Enfin, ce truc-là, c'est soit on trouve des personnes qui adhèrent au projet et qui veulent bien financer le projet. Déjà, voilà, première question, puisque là tu ne l'as pas mis dans les solutions possibles, tu as parlé de primes aux entrepreneurs, de banques d'échange et de monnaie libre, mais quid de la participation collective, par exemple à un projet qui intéresserait, je ne sais pas, une centaine de, ou des milliers de personnes d'avoir, voilà, de monter un projet ensemble. Est-ce que c'est possible de faire une participation collective à un projet comme ça, un peu d'envergure?
Oui, alors ça s'appelle l'association libre. C'est-à-dire que les gens vont s'associer entre eux, voilà, mais sans constituer une personne morale. Et ils établiront des contrats amiables, non garantis par la loi, entre eux. C'est écrit dans le programme, c'est l'association
libre. S'ils veulent faire un pot commun pour, on va dire, créer une usine, hein, bon, là, je ne suis pas un fanat des usines, mais bon, je me dis que ça peut avoir un peu d'utilité. Ça en a aujourd'hui, en tout cas dans notre quotidien, donc c'est possible.
Bah, tout est possible dans la mesure où c'est pas garanti par la loi. C'est de façon amiable, tous les arrangements entre les personnes sont possibles. Elles sont pas opposables aux tiers. L'association libre des travailleurs, indépendant ne constituera pas une entité globale morale qui pourra parler en nom unique. C'est-à-dire que tous les individus seront solidairement responsables des dettes qu'ils contracteront s'ils décident de l'être.
J'ai quand même un point d'interrogation, puisque si on supprime la personne morale, comment est-ce qu'on va tenir une comptabilité des flux, donc entrée et sortie par exemple, déjà sans parler de bilan et de tout ça, mais comptabilité des flux, sur quel support, comment ça se passe en mode comme ça, pas de personne morale donc...
Alors, s'il n'y a pas de personne morale, si j'ai bien compris, dis-moi Christian, forcément les murs vont appartenir à quelqu'un. La machine A va appartenir à quelqu'un. La machine B va appartenir à quelqu'un. Le camion C va appartenir à quelqu'un. Et chacun va avoir un rôle. Et tout appartient à quelqu'un. Et chacun est censé tenir sa propre comptabilité, non ? C'est pas ça ?
Alors, c'est soit ça, soit c'est comme ce qu'on fait pour le PPAC, c'est-à-dire qu'il crée une entité virtuelle. Alors, charge à tous les co-contractants de tenir cette fameuse comptabilité dont vous parlez, comme si c'était une personne morale, hein ?
Mais du coup, tu nous as pas fait le parallèle qui est les banques et les comptes bancaires, parce que du coup, quid de tout ça? Parce que la question au départ de Vincent, c'était qui finance, tout ça, on est d'accord, c'était plus sur le financement que est-ce que ça va être réalisable physiquement, j'ai bien compris la question. Mais dans ce cas-là, il va falloir que tu nous dises, Christian, dans ton nouveau monde, les nouveaux programmes, qui possède des comptes bancaires, est-ce que les comptes bancaires existent?
Mais ça,
est-ce qu'ils sont valides par les, est-ce que c'est les banques, on sait qu'ils font prêts validés par l'État, ça on est d'accord. Mais est-ce qu'elles sécurisent l'argent? Chacun est censé sécuriser son argent comme il veut, et
oui.
Chacun compte comme il veut.
Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, à partir du moment où on a des individus agissants. Des individus agissants qui sont des travailleurs indépendants, il n'y a pas de séparation entre le domaine privé et le domaine professionnel. L'individu qui développe une activité, il la développe exactement comme s'il développait une activité dans sa vie privée. Bon. À partir de là, rien n'empêche un certain nombre d'individus, 2, 10, 15, 20, 100, d'établir comme nous on le fait des règles internes, d'établir une comptabilité, de transférer.
Oui, mais non, mais ça veut dire que quelqu'un va avoir un compte en banque. Comment ? Ça va appartenir à quelqu'un en privé.
On peut décider comme ça, on peut décider autrement.
Mais c'est autrement, on nous dit comment c'est possible, il n'y a pas de personne morale, il y a forcément quelqu'un qui va. Le compte va appartenir à une personne.
Non, mais il peut y avoir plusieurs comptes.
Oui,
toutes les imaginations.
À une personne.
Oui, absolument, oui, oui.
Oui, d'accord, ok.
Oui. Ah ben oui, oui, ça, oui, forcément, oui. Forcément, chaque compte bancaire appartiendra à une personne. Mais on peut décider, on peut disons le groupe peut décider qu'il va y avoir un compte bancaire sur lequel les gens vont mettre leur argent. Le banquier ne le saura pas. Il y aura uniquement les membres du groupe qui sauront qu'en fait ce compte qui est au nom de Vincent Bruyère, bon ben en fait c'est le compte de tout le monde. Et puis voilà, tout est possible, c'est amiable. Mais bon.
Mais après, il faut recontextualiser aussi dans le fait qu'on sera dans un monde plus contraint et qu'il y aura des gigafactories à plusieurs milliers de personnes dedans avec des changements de mode de consommation, etc. Je ne le crois pas forcément. On reviendra, comme il y a 70-80 ans, à des méthodes d'usine beaucoup plus petites.
Oui.
On a un peu évacué au début parce qu'on a dit sur le programme tout ce qui est fort empreinte écologique, ça va à l'État. Et donc, après, je ne sais pas trop, quand je dis capitalistique, Christian, ça veut dire fort capitaux, c'est-à-dire qu'en gros, ça nécessite plein d'usines, plein d'énergie, plein de machines, etc. Et quand souvent ça nécessite plein de trucs comme ça, souvent, ça a forte empreinte écologique parce que c'est lié, franchement. Il y a peut-être des petits trucs qui ne coûtent pas cher et qui polluent beaucoup. C'est possible. Après, est-ce qu'il y a des gros trucs qui coûtent très très cher et qui polluent peu? Peut-être. Les mecs qui font de la recherche dans le spatial, je crois. Et ça m'étonnerait que dès que tu mets plein d'argent, si tu comptes en partie écologique, elle est forte. Et donc, comme dit Yves, si on retrouve. Si le privé s'occupe du truc un peu moyen, de l'ordre d'un village, ville, etc., d'une usine dans la ville, comme il y avait. À l'époque, les usines au centre de l'île, qui était un gros bâtiment, mais voilà, qui avait un moyen taux d'empreinte écologique, en tout cas l'État dit, c'est pas bon.
On revient à des entreprises à taille humaine, c'est-à-dire que.
On peut surveiller, tu crois qu'on peut surveiller les comptes bancaires de celui qu'on a désigné comme pot commun, tout le monde peut surveiller, c'est ça que tu veux dire.
Non, le pot commun, je dis pas qu'il y aura. Beaucoup d'entreprises à pot commun, et ça, je ne note pas de pollution, comment les gérer. Par contre, je dis qu'il y aura beaucoup d'entreprises moyennes, avec un chef d'entreprise qui aura les capitaux, parce qu'il aura les capitaux de son travail précédent, ou enfin, peu importe, et avec une cinquantaine, une soixantaine d'employés qui sont sur une petite industrie. Et ça, à des multiples.
Il n'y a pas d'entreprise,
Des mecs sous contrat avec lui qui travaillent pour lui.
Ouais, d'accord. Mais c'est pas des employés.
Non, mais des gens qui ont un contrat avec lui pour faire tant d'heures à faire telle tâche.
Non, mais alors attends, si on fait une redistribution des cartes là, dans le programme, on dit qu'on fait une remise à zéro des patrimoines.
Oui.
Je vois pas comment quelqu'un dont peut créer. Alors moi qui me crée une start-up qui fasse des millions d'euros, enfin de.
Non, mais tu grandis au fil de ton truc.
Si, voilà.
Si le porteur. Tu commences tout seul, t'as trop de boulot, tu mets un contrat avec un gars pour fabriquer un truc, et puis 2, et puis 3, et puis 10, et puis 20, et puis 50, jusqu'à ce que ça reste de ta lumière.
Éventuellement. Mais du coup, on a quand même passé un peu rapidement sur l'histoire de il n'y a plus de personne morale, donc on ne peut plus créer un compte collectif. Ça veut dire que les ventes des produits vont sur quel compte ? Sur celui qui vend, enfin sur quelqu'un qui est désigné dans le groupe comme réceptionnaire des ventes.
Non, il y a un contrat de vendeur, celui qui vend, celui qui a l'argent, et dans le contrat de vendeur, il y a écrit 30%, tu le rends là. C'est-à-dire tout le chemin de gens, depuis le client jusqu'à tout le monde, ça va passer par chaque contrat en fait.
Pas oui. Simple en comptabilité, mais pourquoi pas, oui. Après, alors du coup, après, celui qui loue ses services pour, je sais pas, faire de la com, par exemple, je dis n'importe quoi, donc lui, il va passer un accord de rémunération avec l'entité virtuelle, l'entreprise lambda.
Non.
Enfin, avec les autres membres du collectif.
Avec un seul membre, c'est-à-dire soit le PDG, soit le mec qui a fait au départ la mise, etc. C'est celui qui a fait le projet, donc c'est lui qui gère tout. Soit la personne qui est en contrat avec la personne qui dit « Moi, je vais gérer à ta place, et j'ai un contrat. » Et lui qui gère, il va gérer la com, par exemple. Ça fera partie de son truc. Il y aura forcément un truc.
Non, non.
Moi, ce que vous recherchez comme système, je le vois plutôt comme un facteur limitant de l'expansion. C'est-à-dire que des grosses entreprises comme ça, multiples, avec des centaines de salariés, des trucs invraisemblables, justement, ça sera un facteur limitant, c'est que ça sera pas forcément tellement possible. À partir d'une certaine taille, soit ça deviendra un truc d'État avec le service d'emploi, voilà, soit ça restera dans une taille humaine avec un chef d'entreprise et des gens sous contrat avec lui. Mais je pense pas que ce soit possible de faire une association comme ça, multiple, et pour une grosse usine. Je sais pas, mais enfin, oui. Ça me paraît compliqué, semblable.
Alors, la question que pose, le cas de figure que pose Vincent, bon, c'est quelque chose de... Moi, j'y réponds parce que c'est théorique, donc il faut répondre aussi de façon théorique. Théoriquement, c'est possible. Bon, théoriquement, c'est possible. Effectivement, j'ai tout à fait de l'avis de Yves. Dans la pratique, dans la réalité, plus ce sera gros, plus il y aura de monde, plus ce sera difficile à faire fonctionner. Et je ne suis pas sûr que l'esprit de la société dont on est en train de dessiner le trait aille vraiment dans ce sens-là. L'esprit, c'est justement une atomisation de petites entreprises, de petites activités artisanales. Hein, c'est un retour à l'artisanat, puisque la transformation de l'artisanat en industrie, ça a été précisément le step qui a fait passer la société de l'Ancien Régime à la société de la croissance. Bon, donc, mais si on veut quand même raisonner d'une façon théorique, on va dire c'est possible, oui, de faire quelque chose à plusieurs, même un nombre important. Et là, je voudrais apporter une petite nuance lorsqu'on dit on contracte uniquement avec une personne. Il faut bien lire ce qui est écrit dans le chapitre relatif l'association libre. L'association libre, bon, elle crée une personnalité morale virtuelle. C'est-à-dire que celui qui va, vendre un produit, puisque quand on parle de gens qui travaillent sous contrat, en fait, on parle d'échange de services. C'est-à-dire qu'il y a des prestations, je vends une prestation, je facture une prestation et je suis payé pour ma prestation. Et dans le cas d'une association libre, telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est décrite dans le programme pour l'après-croissance, il s'agit d'une entité personnalité morale virtuelle, c'est-à-dire qu'on va traiter avec, admettons que cette société s'appelle la société Alpha, on va traiter avec l'entreprise Alpha, et pour faciliter effectivement la compréhension des choses, voilà, le contrat ça va passer avec Alpha. Mais Alpha, ce sera tous les participants. Alors, c'est en fait, si on veut chercher une correspondance avec ce qui existe aujourd'hui, ça s'appelle très exactement société en nom collectif. Voilà. Une société en nom collectif, c'est exactement une association de travailleurs libres, telle qu'elle est décrite dans le programme. Qu'est-ce que c'est qu'une société en nom collectif ? Eh bien, on contacte avec la société, mais elle n'a pas d'existence morale. Parce que toutes les... co-contractants, en fait, on contracte avec des co-contractants. Et chaque participant, chaque membre de la société en objectif est responsable sur ses biens propres, est responsable d'abord solidairement de l'ensemble, est responsable sur ses biens propres. Voilà. Donc ça répond, je pense, aux questions qui ont été posées.
Ah, tu veux dire qu'elle ne peut pas être poursuivie en justice en tant que personne morale?
Non, 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 c'est tout le monde. S'ils sont 10, c'est les 10 qui sont...
C'est les 10 qui prennent, et voilà. S'ils se prennent une demande, ils se les partagent. C'est juste pour dire, pour simplifier, pour dire on poursuit tel groupe. C'est pour nous mettre groupe, en fait.
Alors,
au lieu de poursuivre 10 fois personnes, on poursuit une fois 10 personnes avec un nom commun.
Voilà, alors la différence qu'il y a entre l'association libre, enfin tout au moins telle qu'elle est écrite, peut-être qu'il faudrait se repencher sur l'énoncé exact de sa définition. La différence qu'il y a entre l'association libre et la société en nom collectif, la SNC, c'est que la SNC, elle existe en tant que personne morale, c'est-à-dire qu'on va ST en justice contre la SNC, mais ensuite ça va retomber sur tous les individus. Alors que dans l'association libre telle qu'elle est écrite, si on est en justice, on va devoir être en justice directement sur les personnes. Voilà. Bon, ça c'est une subtilité juridique sur laquelle peut-être il faut se pencher.
Alors, est-ce que ta personne morale virtuelle peut avoir un compte bancaire réel?
Non. Voilà. C'est qu'il faut que tous soient d'accord pour dire. On désigne Gilles Robert en tant que bouc émissaire, disons girardien, et c'est lui qui va ester en justice à notre place, c'est lui qui va. Bon, mais ceci dit. Celui qui sera désigné emportera la responsabilité de tous les autres de façon nominativement équivalente. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de proportion comme il y a actuellement avec les sociétés capitalistiques, c'est-à-dire qu'on est responsable à hauteur de sa mise. Alors on retrouve ça dans les SCOP. Hein. Dans les SCOP, c'est une personne, une voix. Dans une société anonyme, c'est nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'on a. Dans une...
Non, mais justement, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ce que disait là Vincent, l'argent va où, etc. Quel est l'avantage d'avoir ce truc virtuel là par rapport à rien du tout? Si on désigne quelqu'un comme responsable ou comme responsable du compte ou l'argent va sur tel compte et ça appartient bien à quelqu'un, quel est l'avantage de cette c'est juste pour avoir un nom qui soit inscrit à un registre quelconque, enfin, c'est ça que je n'allais pas avoir l'avantage du tout.
Ben, disons que c'est quelque chose à écrire, hein, parce que ce qui est écrit, c'est rien. Voilà. C'est une association libre, voilà. Bon,
oui, c'est
pour simplifier. Mais on n'a pas dressé. C'est pour ça que ce débat fait peut-être apparaître une nécessité ou pas de créer cette entité virtuelle qui n'est pas inscrite en tant que telle dans le programme, qui permettrait de rendre plus simple des démarches de type création de compte bancaire ou rapport juridique, litige, notamment dans le cadre des litiges auprès des tribunaux.
D'accord.
Et protéger de quelle manière celui qui va être titulaire va pas soit se tirer avec la caisse ou être le seul responsable du gouffre. Enfin, il y a des choses de protection à avoir, quoi, mais...
Oui, mais là, les protections ne peuvent pas être aucunement garanties par la loi. Ça ne peut être que des protections internes.
Voilà. Ouais. Sur le contrat entre les différents acteurs.
Mais c'est ce que font les Chinois avec la titine, hein, quand ils se réunissent en sous-sol et puis qu'ils créent une entreprise en mettant chacun des sous dans un vase, hein, parce que celui qui veut monter l'entreprise, ça fait 10 ans qu'il bosse en tant que loufia chez l'un d'eux et tout le monde a confiance en lui, et puis les banques, elles n'interviennent pas. Hein, voilà, c'est ce qu'ils font... Rudy, ici, hein.
Oui. Non, mais après, d'éviter le problème, justement, qu'il y en a un qui disparaisse, qu'on n'ait plus de nouvelles d'un coup, quoi.
Ah oui, mais ça...
C'est des choses qui arrivent, quoi.
Oui. Non, mais bon, là, c'est vraiment dans le cas où... dans le cas où on pose la question, on dit c'est possible, mais les gens prennent le risque. L'État n'est pas là pour garantir ce genre de choses. Et très concrètement et très clairement, c'est un programme qui emmène l'activité privée, l'activité de l'individu agissant, qui le fait retourner vers l'artisanat, vers la petite entreprise, voilà, c'est très clairement.
Et qui fonctionnait très bien, et il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Moi, là, qui fonctionne.
Il y avait de la construction, il y avait des usines de motos.
Bien sûr,
avait,
oui,
des,
oui, oui.
Des riches, une petite industrie qui avait 20-30 personnes.
Et pour répondre à l'interrogation de Vincent, ben Vincent, comment on démarre? Mais on démarre petit. Là, ça dit, comment est-ce qu'on fait pour démarrer gros? Mais tu peux pas démarrer gros, tu démarres petit. Tu démarres petit, tu fais un petit atelier. Si tu es savetier, tu fais des savates. Voilà, et puis, petit à petit, voilà, tu agrandis ton atelier, et voilà.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que si la question, je sais pas si c'était la question de Vincent, mais si la question, c'est une question de transition, en disant, en transition, comment on fait toujours des voitures et tout comme ça, machin. Tout ce qui est gros, ça va être l'État.
C'est-à-dire absolument.
Ce qui nécessite machines-outils énormes, des ponts de transbordement, que ce soit dans les ports ou même dans les usines, etc. Tout ce qui est gros, c'est forcément
un transport
écologique, donc c'est l'État. Oui. Et les petits profitent des gros, c'est vrai, parce que du coup, ils récupèrent bien les machines-outils, certains trucs comme ça, et les usines aussi, qu'on a besoin que d'une. Mais elles en ont une, parce qu'on en fabrique 100 et puis ils portent des gros. Donc évidemment, ça a transformé aussi les petites entreprises. Mais on peut aussi revenir comme avant, où à l'époque, il y avait une seule moyenne usine qui sortait quelques machines-outils par an, et pas beaucoup, et que c'était pour d'autres entreprises encore plus petites qu'elles, et à l'autre bout de la France, ça, c'est sûr.
Donc, les fabricants de machines-outils ne sont pas forcément des très grandes entreprises. Hein.
Non, parce qu'il n'y a pas besoin de gros débit, ça dure 20, 30, 40 ans. Hein.
Tu avais une questionnement pour genre les produits d'hygiène, etc., où tu as l'usine d'État qui produit de la molécule en gros volume et qui livre la petite usine locale qui va conditionner pour la vente au détail. Enfin, je le vois un petit peu comme ça.
Oui, parce que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, il n'y a qu'une usine qui vend un seul produit et après, elle a sorti de l'usine et on s'est étiqueté de millions de façons différentes.
Voilà.
Le même produit à la base. Donc oui, bien sûr, c'est faut connaître. Mais bon, la question, c'est pas forcément ça. C'était aussi, surtout, c'est comment on fait les choses en commun.
Oui.
Là, se pencher, parce que Christian, moi, je commence à peine en étant dans une COP. Enfin, comment marchent les COP aujourd'hui? Quels sont un statut? Parce qu'elles se sont battues pendant des années. Au départ, elles ont fait avec un truc bâtard qui était prenait un statut comme ça, puis elle adaptait et tout ça, puis où il n'y avait plus tout de statut. Et puis petit à petit, il y a eu des statuts reconnus de plus en plus. Mais c'est toujours pas la place de toute façon, ils se battent toujours. Donc, et au final, ils ont quand même peut-être réflexe un peu de croissanciste, parce que les statuts, ça a toujours été comment on fait pour croître, en fait. C'est ça aussi à la base. Pas fait pour croître, mais il y a toujours ce truc pernicieux qui fait comment on grandit, comment on grossit, ou alors à l'autre bout, on dit bon, on vous fera des statuts quand vous serez gros, ou c'est ce genre de truc-là qu'il faut changer ce raisonnement-là. C'est-à-dire.
Mais là, il va se changer tout seul. Le raisonnement, il va se changer tout seul. Ce qui fait grossir, c'est justement ce que cherche à identifier Vincent, c'est les capitaux. Voilà, bon, tu veux grossir, mais tu n'as pas les capitaux. Ah, ben attendez, voilà, il y a une solution de financement. Là. Finance.
Oui, mais comme tu dis, il y a une solution juridique qui va être le financement, parce que s'il n'y a pas une solution juridique, si une seule. Ce que se faisait à l'époque, c'était fait, mais bon, si une seule personne prend le risque,
pas uniquement,
ça fait moins.
Non, mais pas uniquement juridique, hein, parce que les financements, ils viennent très souvent des banques. Et donc, ça suppose que la banque puisse créer ex nihilo. Or, dans le système, la banque ne peut plus créer ex nihilo. Donc, il y a déjà toute cette source de financement qui n'existe plus du tout. Il ne reste plus que le financement collaboratif. Hein, c'est-à-dire, on met... c'est les business angels. Mais la business angels, c'est même plus possible puisqu'on ne peut plus maintenant apporter de l'argent dans une entreprise si on n'est pas acteur. Enfin, on ne peut plus apporter de l'argent dans une collectivité de travail si on n'est pas acteur de cette collectivité. Donc c'est.
Ça confirme qu'on peut participer à une entreprise collective. Le terme d'entreprise est du coup décalé, mais disons, au sens premier du terme.
Oui, au sens premier, entreprendre ensemble. Alors, mais bon, le modèle, la structure, elle existe, ça s'appelle la SNC.
D'accord, mais il faudra quand même prévoir, je pense qu'il faut creuser l'idée de la comptabilité virtuelle, parce que là, ça me paraît un peu aventureux de dire, on va, enfin, je vais dire sortir, enfin, il faut pour. pour transmettre, pour gérer au quotidien, si on n'a pas un outil d'agrégation.
Si tu le crées ton outil.
Oui, dans les
codes. On décide de.
Non.
Bah, quand on est gamin, qu'on a 7 ou 8 ans, qu'on fait une épicerie, hein, où on vend des carambars et des Mistral gagnants, bon, ben, on est plusieurs, on met des sous dans une boîte à sucre, et puis on fait notre comptabilité. Bon, ben, là c'est pareil. Il va y avoir une dizaine d'individus agissants qui vont dire bon, on va faire un truc ensemble. Ouais, on s'arrange, on se fait notre truc, hein, on se fait notre pot commun, voilà.
Mais ça existe déjà dans les portages salariales.
On n'a même pas besoin, d'une banque. On peut se faire sa banque soi-même.
Non, mais vous connaissez pas les codes pour le portage salarial. Il ramène tout l'argent de tous les gens qui ont
des. Bien sûr que si. Le portage, c'est ça.
Ils payent des gens pour gérer tout ça. Ils prennent donc un pourcentage pour payer ces gens-là.
Voilà.
Et ils redistribuent. Le pot commun sous forme de salaire, bon, parce que il y a des règles, c'est des règles internes, même des logiciels
voilà. Développés.
Et certains ont parti avec la caisse. Et du coup, maintenant, les boîtes se sont transformées en banque, c'est-à-dire en garante. C'est-à-dire qu'ils ne versent plus l'argent à la personne, ils le gardent donc, comme une banque, en fait. Ils gardent l'argent coopératif et ils le reversent après, quand c'est fini, quand la personne peut renvoyer.
Nous, c'est plus possible, ça, puisqu'il n'y a plus de personnalité morale, il y a juste une comptabilité virtuelle. Donc,
si, c'est possible si quelqu'un se dit, moi je suis la banque. Oui. Tout le monde a confiance en lui.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Tout le monde a confiance en lui en la banque parce que le banquier ne part pas avec l'argent.
Oui, bien sûr.
Tout le monde le connaît, il a les flingues avec lui, il a l'argent de tout le monde. Donc tout le monde le met chez lui.
Oui.
Et lui, il garantit l'argent, il te dit bah, moi je te donnerai l'argent que quand j'aurai tout et que je verrai bien que tu construis cette usine. Et là, il te donne l'argent petit à petit. Machin. Bien sûr que tout peut se faire, mais. Ça se fait pas dans notre monde là, parce que
il y a admettons que ça peut se faire, hein, sauf que ça se fait, je suis d'accord, mais donc c'est pas garanti par l'État, c'est-à-dire c'est des accords inter-individuels.
Voilà.
Bien sûr, c'est ce qui a été dit.
C'est-à-dire si l'un des deux parties fait défaut, il a ses yeux pour pleurer.
Exactement.
C'est ça. Mais comme avant, les premiers Kickstarter, c'était ça, hein, les gens, ça s'est fait quand même. Hein.
Ben,
bien sûr.
Donc ça veut dire non mais je conçois le truc mais ça veut dire que du coup
et puis dans certains pays avec des gens qui investissent c'est un peu comme ça hein. Des gens quand ils investissent dans un truc ils mettent 10 000 balles sur un mec qui va développer un logiciel mais après s'il n'y a rien que ça soit sur ces 10 000 balles donc
exactement
existe encore et ça toujours existe ça. Ouais.
Même pour extrapoler un boursier c'est pareil hein. Un boursier s'il y a un crack il perd tout et voilà il y a énormément de gens qui prennent des risques tous les jours.
Oui, sauf que là, il veut parler, Vincent, je suppose, des gens qui ne sont pas là pour miser ni jouer, ils ne jouent pas avec leur vie, ils veulent construire quelque chose. Donc, ils veulent pas. Il y a quelque chose de plus risqué au départ. C'est fabriqué pour la ville, il n'y a pas de raison. Il y a moins de raison que ça capote que ça ne capote pas.
Mais n'importe quel entrepreneur va investir dans quelque chose et voilà, et qui peut se planter. Il y en a des dizaines qui se plantent tous les jours. Même à
non seulement il peut se planter, ça à la limite, je veux dire, il peut se planter, ça peut être une faute collective, c'est pas forcément un problème individuel. Non, c'est juste qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui pourraient, dans ce système-là, si tu veux, jouer un double, enfin, jouer un rôle.
Alors, je pense qu'il y aura moins de personnes intentionnées quand tu as responsabilité totale de ton argent, c'est-à-dire tous les acteurs vont être hyper vigilants, qu'actuellement où tu n'as pas de responsabilité et les escroqueries ils vont à foison. Quoi. À partir du moment où tout le monde est responsable, il y a moins de chances d'avoir de personnes grugées. Ou alors, toujours pareil, quoi. Après, des personnes qui sont un petit peu moins solides, ou, etc., qui regardent moins. Et voilà. Mais à partir du moment où tu es en responsabilité, il y a moins de personnes grugées. Hein.
Oui, parce que tout le monde fait attention, tout le monde a cette culture-là, tout le monde surveille.
Oui.
Et comme il dit Christian, c'est tout le monde, il n'y a pas trop de personnes de l'extérieur, ou qu'on ne voit jamais, qui apportent une grosse somme, ou qui va prendre une grosse somme. Voilà, si c'est des gens qui se connaissent, qui peuvent se surveiller tous les jours, qui travaillent ensemble dans le même projet, etc., ça, ça limite.
Ah ben oui.
Les risques.
Oui, c'est toute la différence avec le système actuel où Monsieur Dupont, Madame Michu, est actionnaire d'une multinationale sans même le savoir parce qu'elle a une épargne bancaire. Voilà. Bon,
ouais.
Ça, ça disparaît.
Ok.
Voilà. Alors, non, ensuite.
Pour revenir un peu sur mon interrogation initiale, c'était comment est-ce qu'on continue à avoir des frigos, un téléphone, alors pas forcément portable, mais un téléphone tout court. Comment est-ce que on peut écouter de la musique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des radios, est-ce que ça continue ou est-ce que en fait si personne n'a envie que ça se fasse, ça se fera pas. C'est ça un peu le résumé de la discussion, c'est-à-dire que
non, c'est que toi tu prends le monde moderne et tu prends des petits objets qui étaient dans les maisons avant de façon artisanale et qui maintenant les maisons sont aussi remplies de nos objets comme avant, mais qui sont plus artisanales, qui sont industrielles.
Non, non, mais moi je te parle de frigo, radio. Ben,
Avant, tout le monde pouvait se payer une caisse à glace isolée, machin, ça pouvait se faire artisanalement, localement. D'accord ? Avec la société de la glace,
c'est là, c'est un peu la préhistoire quand même. Hein, mais...
La préhistoire, c'est avant l'électricité. C'est avant la pompe.
Il y a un siècle, ok.
Ouais, il y a un siècle, c'est hier, hein. C'est un clignot.
Mais non, mais non, il faut tu mets. Non, mais c'est juste.
L'invention de l'électricité, mes grands-mères, elles n'ont pas eu l'électricité après-guerre, hein. 150.
Non, mais moi, je veux qu'on assume. C'est tout, mec. Si on en est à dire qu'effectivement, on revient un siècle en.
Non, ma phrase, c'était pas ça. Ma phrase, c'est que tu as pris des objets tous les jours dans la maison. Dans la maison. Des objets tous les jours, comme le frigo. Où on est obligé de manger des yaourts. Alors, on a mangé des yaourts depuis l'autre des temps. Mais on est obligé aujourd'hui d'avoir un frigo. Donc, tu prends un objet de tous les jours qui est issu d'un truc industriel et tu compares ça avec la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, on vit tous les jours. Depuis des millions d'années, on a une vie de tous les jours. D'accord ? Et ouais. Donc, et tu dis des trucs indispensables. Le téléphone portable, pour l'instant, n'est pas indispensable. Et donc, tu as dit le téléphone. Mais il y a 50 ans, il n'y avait pas de téléphone non plus. Donc, ce n'est pas de dire on revient il y a comme 50 ans, c'est que tu prends des exemples d'objets de tous les jours qui viennent de l'industrie. Et qui dit industrie dit forte empreinte écologique.
Voilà.
Et là, tu es en train de dire.
Le téléphone est une forte empreinte écologique. Mais quoi que ça peut être un débat, effectivement. Mais non, parce que pourquoi je mets ça en avant? Parce que c'est des questions qu'on va nous poser. Enfin, oui. Il vaut mieux poser avant qu'on nous les pose.
C'est pour ça qu'il faut bien centrer le débat. Il faut bien leur montrer que tout ça, ça vient de l'industrie.
Et la base du débat que je soulève dans tes propos, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir suffisamment de moyens, le monsieur tout le monde, de s'acheter un frigo, d'avoir un téléphone portable, d'avoir dans un monde contraint? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que ça va être possible? Est-ce que le frigo, ça sera pas, devra pas être un objet qui devra durer 50 ans, hyper costaud, qui coûtera très cher, qui coûtera peut-être 6 mois de salaire, mais que tu garderas 50 ans. Ce sera peut-être ça le frigo du futur. Ce sera pas le truc qui fait 3 ans que tu jettes et que tu vas chez Darty, comme tu vas acheter un ticket de métro.
Oui, mais ça serait même souhaitable. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est juste, je voulais juste savoir qu'en fait, s'il y avait déjà possibilité de le faire.
Ben, c'est dingue parce que tu prends l'exemple dans ce moment et que tu n'as pas analysé la filière industrielle. La filière industrielle a changé. On est passé de, comme on te l'a dit tout à l'heure, de petits trucs qui faisaient des petits machins. Il y en a qui en faisaient des moteurs, des enroulements de cuivre, des moteurs. Ça se faisait de façon artisanale presque.
Ah ouais.
D'accord. Donc, si tu veux, tout dans un frigo peut se faire entre guillemets de façon artisanale. C'est une caisse isolée, tu peux la faire en bois, on s'en fout. C'est une caisse isolée avec une pompe à chaleur. Donc, si tu prends les éléments un par un, tout peut se faire de façon artisanale, si tu veux. C'est juste pas le mode de fonctionnement d'aujourd'hui.
Tu auras une petite usine qui va te construire le moteur, un mec qui va te construire la caisse, l'autre qui va te construire
comme dit Yves, tu peux pas arroser des millions de Chinois d'un coup en 5 ans. Parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Ça, c'est le modèle industriel croissanciste. Ça, c'est sûr que quand tu retombes de façon artisanale, t'en sors un, comme on le disait, hein, une machine d'outils, tu les sors pas comme ça, mais elles sont censées durer 50 ans. Donc c'est pas du tout la même façon de faire, c'est ça. Et c'est ça que le programme ne peut pas rentrer dans le débat de ça, parce que, justement, de façon législative, tu peux pas mettre ça. C'est un programme qui est législatif. Législatif, tu peux juste encadrer en pensant que. Donc, et comme l'a dit Christian, tu as vu comment c'était la croissance, tu as vu ce qui a permis la croissance, qu'il fallait faire sauter des verrous, et tu les remets. Tu remets les verrous.
Non, je remets rien, je dis juste qu'il va falloir.
Non, notre programme, il remet les verrous. Parce que
oui, voilà, non, mais
c'est la création monétaire, c'est le prêt, etc. Donc, nous, on les remet. Et après, quand, si tu dis, ah ben du coup, il n'y aura plus de frigo, oui, en mode effondrement, il n'y aura plus de frigo, mais en mode purement théorique, est-ce qu'on peut refaire un frigo de façon artisanale? Oui, c'est possible.
Voilà, non, mais c'est ça que je voulais un petit peu entendre, c'est-à-dire. S'il y a des gens motivés pour le faire, ça se fera. Ouais.
Il y aura oui, parce que ça s'est fait. Ça s'est fait. Mais c'est dur quand tu n'es pas dans le milieu. C'est vrai que même moi, j'ai eu du mal à comprendre, même quand on est dans le milieu, voir comment se faisait l'industrie au tout début, etc. C'est compliqué, mais tout au début, c'est fait à petite échelle.
Hein. Au début, l'industrie, ça s'appelait l'artisanat.
Ah oui.
Alors, tous les objets, les objets que tu as cités, Vincent, c'est-à-dire frigo, téléphone portable, c'est des objets qui peuvent être faits artisanalement, qui se sont ensuite industrialisés au niveau de la rentabilité, hein, on est au niveau de la productivité, mais d'un point de vue d'assemblage des composants, ça peut être fait de façon artisanale. Ce qui ne peut pas être fait de façon artisanale, c'est les grosses infrastructures, hein, les rails, les équipements portuaires, des choses comme ça. Bon, mais là, qui sont très très fortement consommateurs de ressources naturelles finies et qui rentrent de façon évidente dans la prise en charge par le secteur public marchand. Puisqu'on a dit énergie, sidérurgie, construction automobile. Après, quand on rentre dans des choses plus petites, comme celles que tu as citées, bon, effectivement, alors il appartiendra, comme je l'ai dit, aux personnes qui seront en charge de l'exécutif de savoir si ça va être pris. Si, par exemple, si les frigos ils vont être faits par une entreprise nationale de frigos, ou bien si on ne va pas s'en occuper. Voilà.
Oui, il y a le débat aussi de ça, hein. Il y a le débat de. Est-ce que tout le monde veut la télé française de la même marque et tout ça, on s'en fout. Toi, dans un monde contraint, etc., est-ce qu'on s'en fout que tout le monde ait le même frigo et la même télé ou pas? C'est pas comme les habits. Donc, est-ce qu'on veut nationaliser telle ou telle branche? Voilà, c'est à voir.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le projet de politique générale que je vous ai soumis, il y a la rédaction, l'élaboration d'un programme exécutif qui cette fois n'est plus de nature législative mais qui ressemble hein, au programme politicien, voilà, on fera ça, on fera ci, on fera ça, et dans lequel on peut préciser justement toutes ces interrogations qu'on a, parce que lorsqu'on dit le secteur public émergent, ça prendra en charge l'énergie, la sidérurgie, la construction automobile. Est-ce qu'on met aussi la fabrication de frigos ou pas? Bon, ça, on ne peut pas le mettre dans la Constitution parce que c'est trop précis. On se contente d'énoncer un principe, c'est-à-dire la forte consommation de ressources naturelles finies. Mais qu'est-ce que ça veut dire forte? Bon, ben là, effectivement, il y a une appréciation qui est de nature non pas législative, mais qui est de nature de commandement opérationnel relevant du pouvoir exécutif.
Ah, voilà. Après, voilà, le dernier exemple qui me vient à l'esprit, là, c'est l'exemple des micro-ordinateurs, hein, à travers lesquels on se réunit là, depuis un an. Donc, bon, pareil, ça, je veux dire, ça, bon, on voit que l'empreinte du numérique aujourd'hui à l'échelon mondial, c'est l'équivalent de l'aviation déjà, là. On en est là.
Mais là, je pense que très, très clairement, la fabrication d'ordinateurs, il faut la faire rentrer dans la liste sidérurgie, construction automobile, il faut la faire rentrer dans la liste. Rappelons-nous d'ailleurs que dans les années 60, De Gaulle avait avait industrie, enfin avait nationalisé Bull, l'entreprise Bull, donc pour fabriquer des ordinateurs. Donc c'était bien considéré comme comme de la grosse entreprise.
À l'heure actuelle, je suis pas convaincu. Parce que moi j'ai mon gamin qui se construit des ordinateurs, qui en construit à ses potes, c'est-à-dire qu'il achète une carte graphique à droite, oui, une tour à gauche, un machin à droite, et le petit gars du coup.
Parle de l'assemblage. Il fait de l'assemblage, mais.
Oui, il fait de l'assemblage.
Donc, du coup, il peut y avoir une petite usine de quelques personnes qui construit les cartes graphiques, oui, une petite usine qui construit les tours, une petite. Et enfin voilà, moi l'organisation, je la vois plus.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Yves a raison.
Non, mais là, c'est plus complexe.
Non, parce qu'après, t'as des novateurs, t'as des mecs qui...
construit déjà une carte, voilà, voilà. T'en as pas fait une en TP, moi j'ai fait une carte en TP, voilà.
Oui, oui. Ah,
non,
je sais pas comment
on a fait. Non, mais...
Donc, mecs, moi, j'ai qu'à faire...
Une puce comme il s'en fait à Taïwan, là, je suis d'accord, c'est des investissements fous, enfin, voilà, c'est des trucs hyper précis. Mais une carte, enfin, je pense que c'est possible de, sur de la petite industrie locale, je pense que ça, c'est tout
oui,
à fait possible.
Parce que ça a commencé comme ça.
Les premiers ordi ont commencé comme ça. Hein. Bon, bah c'est vrai que.
Dans leur garage, les appareils à souder, machin. Donc...
C'est d'ailleurs pour ça que Bull n'a pas marché, parce qu'il y a eu des petites startups qui fabriquaient les ordinateurs avec une clé, un tournevis. Et que c'était plus rentable que de le faire en. Non, mais. C'est un débat, ça.
Okay.